19h21 sur France Inter.
France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, question sur la domination masculine. Alors que depuis près de 2 mois maintenant, des femmes racontent sur les réseaux sociaux et ailleurs les faits de harcèlement, voire d'agression sexuelle qu'elles ont eu à subir. On l'a encore vu aujourd'hui par exemple chez des internes en médecine. On va tenter de comprendre comment on en est arrivé là et que faire pour y remédier. Au-delà de la nécessaire réponse policière et judiciaire à laquelle nous consacrerons bientôt une émission spéciale, on pose ce soir la question du pourquoi nous en sommes arrivés là et du comment lutter au fond contre cette domination masculine, sans doute en prenant le mal à la racine dès le plus jeune âge, en tentant en tout cas de comprendre les mécanismes de cette domination. Pour en débattre ce soir, toujours avec nous, l'historienne Michèle Perrot, rebonsoir à vous.
Rebonsoir.
Avec nous également la militante féministe Caroline Dehas, à l'origine d'une pétition adressée à Emmanuel Macron contre les violences faites aux femmes. Caroline Dehas qui a monté une agence de conseil en matière d'égalité. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À nos côtés également le sociologue Éric Fassin, co-directeur du département études de genre à l'université Paris 8. Éric Fassin qui a publié, si je ne me trompe, il y a quelques années déjà, le sexe politique, genre et sexualité au miroir transatlantique, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Bonsoir.
Merci.
Éric Fassin.
Bonsoir.
Pour les interpeller ou pour témoigner, franceinter.fr ou Twitter, Maudiez Telson. Vous pouvez évidemment nous appeler au standard 01 45 24 7000.
Claire Servagen. Le téléphone sonne.
J'étais en robe et puis il y avait un garçon qui avait soulevé ma robe.
Pas des mecs qui touchent les fesses.
Bah moi à la piscine, quand on s'habillait ou quand on se déshabillait, ils étaient tous toujours en train de me regarder.
Et l'année dernière, par exemple, il y avait des garçons qui étaient des vrais obsédés et à chaque fois qu'on leur parlait, ils nous parlaient de ça.
Voilà la parole de collégienne de 2017, voilà pour cette entrée en matière. Mais tout de suite, comme d'habitude, on va au standard de France Inter. Sylvie nous appelle de Franche-Comté. Bonsoir Sylvie, bienvenue à vous.
Bonsoir, je suis très émue. Madame la professeure Michèle Perrot, j'ai assisté à vos cours en 73-74. J'avais 18 ans en 68. J'ai fait en 68 le tour de tous les groupes d'extrême gauche. Et j'ai remarqué dans tous les groupes d'extrême gauche que les hommes, les garçons de mon âge, me parlaient de la priorité de la libération du prolétariat. Et que la libération des femmes viendrait, non pas de surcroît, mais automatiquement. Je préparais déjà l'agrégation à l'époque, enfin j'avais en vision l'agrégation d'histoire à l'époque, et j'en faisais remarquer qu'en URSS, où la médecine était complètement féminisée, la chirurgie, etc., etc., les salaires s'étaient brutalement effondrés. Et ce qui m'a frappé, c'était leur attitude quand nous étions ensemble. C'est-à-dire que les femmes étaient essentiellement les jeunes femmes, j'étais une jeune femme, était essentiellement dédié au café, à la rodéo et au ballet. Et quand il s'agissait de sujets de fond, ça donnait t'as de beaux yeux, tu sais. Donc, c'était des groupes progressistes. Et évidemment, je me suis dirigée très rapidement vers le féminisme. Mais cette attitude masculine, donc d'une génération ancienne maintenant, hein, j'ai 67 ans, d'une génération ancienne, était inscrite. C'est-à-dire qu'une femme ne pouvait pas penser.
Merci Sylvie pour ce témoignage. Michèle Perrot va vous répondre, bien sûr.
D'abord, je voudrais vous saluer, vous évoquer des souvenirs que j'ai partagés. Je me souviens que quand nous avons fait le premier cours sur l'histoire des femmes en 1973, le premier cours a été chahuté parce que les étudiants masculins pensaient que nous allions détourner les énergies de la Révolution. Alors après, ça s'est arrangé, mais véritablement, ça n'a pas été bien accueilli. C'était considéré comme un peu une trahison, quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et ce que vous racontez, madame, oui, bien sûr, nous l'avons toutes vécu à cette époque-là. Il faut pas oublier que les quatre héros de 68, Cohn-Bendit, Sauvageau, Krivine et... le troisième, le quatrième, que je connais bien pourtant, je l'oublie, c'était des hommes. Hein, et au fond, on ne contestait pas ça. C'était normal, voilà. Il y avait quatre héros, quatre jeunes gens qui incarnaient 68 et Shérif et le café, c'était ça, un petit peu.
En tout cas, merci Michèle Perrot de nous avoir ouvert les yeux. Merci pour tout ce travail que vous avez fait. Même si à l'époque il était contesté, Éric Fassin, aujourd'hui, encore de la contestation sur ces sujets du côté de ceux qui enseignent.
Je crois en tout cas que ces questions n'appartiennent pas au passé,
malheureusement. C'est bien la raison pour laquelle nous en parlons ce soir. Et que l'idée qu'il y a des questions principales et des questions secondaires n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu en particulier à gauche. Et je crois que la question qui était posée par l'auditrice était justement fondée sur cette stupéfaction qu'il peut y avoir à ce que des gens qui sont censés être progressistes puissent considérer qu'il y a de bonnes questions et de mauvaises questions. Qu'on peut parler des questions de classe parce que c'est important, mais pas des questions de genre parce que ça n'est pas important. Et c'est vrai, non seulement dans le passé, mais dans le présent, mais aussi dans des milieux très différents, et y compris encore aujourd'hui dans l'université. Vous avez gentiment rappelé que j'enseigne dans un département d'études de genre. J'ajouterais que c'est le seul qui existe aujourd'hui en France.
Caroline Dehas, on entendait Sylvie qui nous parlait des étudiants de l'époque qui considéraient que les filles étaient surtout faites pour aller préparer le café. Aujourd'hui, on a entendu qu'il y avait des protestations et puis des récits de harcèlement du côté de l'UNEF. On a entendu les internes en médecine, décidément, c'est la même histoire qui recommence, qui continue.
Alors, on a toujours envie de regarder soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est que les choses, elles avancent à la vitesse de la lumière. Moi, je dis souvent aux gens, on est né quand même au bon moment. Parce qu'on serait né il y a 150 ans, ça n'aurait pas été la même histoire. Donc, on est né dans une période dans laquelle il y a des prises de conscience massives et des avancées massives, à la fois en termes de droits ces dernières décennies, mais aussi réellement. Il y a des choses qui progressent dans notre société. Et puis, le verre à moitié vide, c'est quand même qu'on se bat, et vous êtes nombreuses, Michel Perrault, Françoise Héritier, à l'avoir dit, on se bat contre un système qui est multimillénaire. Donc, c'est pas en 2 ou 3 ans qu'on va réussir à changer radicalement un système qu'on porte en fait et qu'on vit, qu'on transmet depuis des milliers d'années. Et c'est vrai que les freins auxquels on se heurte, moi j'en vois deux qu'on rencontre fréquemment dans le monde professionnel, dans le monde militant ou dans ma famille, dans le monde social. Le premier frein, c'est ce que j'appelle l'illusion de l'égalité. Quand vous arrivez en disant « Ah, oh, l'égalité femmes-hommes, c'est important », les gens vous disent « Non mais, bon, quand même, globalement, ça va, tu vas pas te plaindre ». Il y a une forme d'illusion de la réalité. On a l'impression que ça va. Bon, alors certes, ça va mieux qu'il y a 150 ans, certes, ça va mieux que dans certains pays du monde, mais ça va pas. Quand on voit qu'il y a plus d'une femme sur deux en France en 2017 qui est victime de violences sexuelles, c'est que ça va pas. Et puis le deuxième frein auquel on se heurte, c'est ce que disait Sylvie dans son intervention, dans sa question, c'est que on est face à... On a l'impression que l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet à part. Il y a le tri des déchets, l'égalité...
Ça passe toujours après.
Voilà, c'est ça.
Il y a toujours d'autres urgences.
Et moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Je pense que l'égalité femmes-hommes est un sujet transversal et incontournable. Et quand... Tant que le gouvernement, par exemple, ou que les syndicats, ou que les partis politiques n'auront pas compris que l'égalité femmes-hommes doit être mise à toutes les sauces, tout le temps, on ne fera pas avancer l'égalité dans notre pays.
On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Martine qui nous appelle de Colombes. Bonsoir Martine.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci pour votre émission. Et pour rejoindre la question et la remarque de l'intervenante précédente, à savoir la réalité de ce que nous vivons, je voulais revenir sur un cadre légal qui existe, mais dont on ne parle pas assez et dont on ne connaît pas peut-être la portée symbolique, qui est le portage des noms, noms maritales, qui n'est absolument pas obligatoire et qu'on peut complètement ignorer. Et pour les enfants, la question du nom patronymique, le cadre légal existe, mais j'ai plus qu'un sentiment pour en discuter autour de moi, c'est que c'est une loi qui n'est pas ou très peu appliquée. Or, cette domination, eh bien, le premier symbole me semble être le nom. Qu'en pensent vos invités ? Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette question, Martine. Qui souhaite lui répondre ? Éric Fassin, peut-être ? Le nom n'est pas un détail.
Je crois que, effectivement, d'abord, beaucoup de gens ignorent que prendre le nom de son mari n'est pas une obligation et que, en fait, c'est un nom d'usage et que ça ne change pas l'état civil. Et c'est d'autant plus frappant à une époque où on a tant de mal à accepter le nom d'usage pour des personnes qui changent de sexe, qu'on ait autant de facilité à l'imposer à des femmes. Parce que, en fait, on l'impose très souvent à des femmes. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que beaucoup d'administrations vont systématiquement transformer le nom d'une femme en le nom de son mari, en considérant que puisqu'elle a un mari et puisque ce mari a un nom, eh bien ça doit être le sien. Donc ça dit quelque chose sur les normes. Et ce que disait l'auditrice, c'est que la loi c'est une chose, mais il y a les normes aussi. Et bien entendu, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'il ne suffit pas de parler de sexe, mais qu'il faut parler de genre. Si nous parlons de genre, c'est bien parce que il s'agit non pas seulement des hommes et des femmes, mais de toutes ces normes qui assignent les hommes et les femmes à des places particulières.
Et je rajouterais, ce qu'a dit quand même Martine, c'est qu'il n'y a pas que l'histoire du nom du mari, il y a aussi le nom que les enfants peuvent porter, puisque désormais, les enfants peuvent avoir le nom du père, même quand de la mère, même quand la femme est mariée, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Michel Perrault.
Oui, ce qui est intéressant dans la remarque de notre auditrice, que je salue, c'est la difficulté finalement de changer soi-même, parce que la loi le permet et on ne le fait pas. Et ça, c'est pour, dans beaucoup de choses, c'est comme ça. Il y a beaucoup, on a finalement beaucoup plus de possibilités et on ne les utilise pas. Et par conséquent, ça pose une question sur le consentement. Le consentement implicite qu'on donne à un système. Après tout, on est là-dedans, pourquoi changer ? C'est comme ça, c'est comme ça. Et un jour, on se dit, ben non, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça.
Caroline Delas.
Oui, je trouve que Martine a du courage d'apporter la question du nom de famille. Elle aurait pu aussi porter la question du mademoiselle ou de l'écriture inclusive. C'est toujours les sujets qui font partir en sucette les repas de famille.
Non, mais que sur le nom, là, la loi, ça
c'est
y est.
Fondamental. Non, mais c'est un sujet existe. Fondamental. Sauf que c'est toujours des sujets explosifs. Parce qu'on touche en fait là à notre identité, à notre histoire, à notre culture. Et donc ça part généralement dans les repas de famille ou à la machine à café en sucette. Ce que moi je trouve intéressant dans ces débats-là, c'est qu'en effet, si on les prend par le petit bout de la lorgnette, entre guillemets, c'est-à-dire si on regarde que ce débat-là, vous aurez toujours quelqu'un autour de la table pour vous dire « Non mais ça va, enfin je veux dire, tu vas quand même pas exagérer. » Bon, ce qui est intéressant avec la société dans laquelle on vit, quand je dis intéressant, c'est un euphémisme, ce qui est en fait un peu flippant avec la société dans laquelle on vit, c'est que où que l'on regarde, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans la vie militante, où que l'on regarde, les inégalités entre les femmes et les hommes sont là. Les stéréotypes, les normes dont parlait Éric Fassin sont là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, toutes ces petites normes qui peuvent nous paraître peut-être pas si graves que ça, si on les prend chacune dans un coin, elles font système et elles nous empêchent de lever cette chape de plomb là, qui pèse et qui nous empêche de faire avancer l'égalité.
Et je rajoute un témoignage de journaliste dans une rédaction nationale. Quand est arrivée sur la table l'histoire du nom de l'enfant qui pouvait porter le nom de la mère, je peux vous dire que dans une rédaction, c'était même difficile de faire comprendre que c'était un sujet. Je vous promets que c'est vrai, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On repart au Standard de France Inter. Jean-Pierre est en ligne de Tarbes. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, bonsoir madame, bonsoir mesdames. Oui, donc... Mais le respect dû aux femmes ne se discute pas, ça va de soi, qui pourrait être contre ? Bon, vous me dites que la parole se libère, enfin j'ai entendu que la parole se libère. Oui, la parole se libère, on l'a assez entendu, mais comment sait-il qu'il n'y a jamais une phrase sur la pornographie ? Or, la pornographie est une violence qui s'adresse même aux enfants via les réseaux sociaux ou les revues, parce que quand on pense, quand on parle porno, on pense à qui ? On pense à la femme. Disons, en activité, qui s'expose d'elle-même. C'est elle-même qui s'expose. Bien sûr, il y a les hommes aussi. Je ne dis pas le contraire, mais si les femmes n'y allaient pas, il n'y aurait pas de pornographie, me semble-t-il. Alors, où est le propre respect de ces femmes-là ? Pourquoi on nous demande le respect pour les femmes ? Ça ne se discute pas, je l'ai déjà dit. Mais j'aimerais bien qu'elles elles-mêmes aient du respect pour elles-mêmes. Moi, je trouve que la pornographie n'est pas toujours le respect de la femme. En plus, sans compter celle qui s'adonne parfois à la zoophilie.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Qui souhaite répondre à Jean-Pierre ? Caroline Dehas, peut-être ? Non, mais... Attendez, pour poser la question de la pornographie, c'est un vrai sujet quand même.
Il y a plusieurs choses dans ce que dit Jean-Pierre. D'abord, il dit le respect des femmes ne se discute pas. J'aimerais bien savoir sur quelle planète vit Jean-Pierre. Je rappelle que rien qu'aujourd'hui en France, plus de 200 femmes seront violées dans notre pays. 200 femmes, d'accord ? Donc, je ne sais pas si le respect des femmes se discute. Moi, j'aimerais bien qu'on n'ait pas besoin de le discuter. Mais je pense que ça doit être une discussion. Parce qu'en fait, il n'est pas réel aujourd'hui en France. Et les violences à l'encontre des femmes, elles sont majeures dans notre pays. Puis la deuxième chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que le premier réflexe de Jean-Pierre, quand il va parler de la pornographie, et notamment de l'image que ça renvoie de la sexualité, une image de violence, une image de domination, pour l'immense majorité des films pornographiques qui sont tournés, qu'est-ce qu'il va interroger comme responsabilité ? Pas celle des gens qui tournent le film, pas celle de ceux qui financent le film, pas celle de ceux qui diffusent le film. Il va interroger la responsabilité des femmes qui tournent le film. Et c'est ça qui m'interpelle, c'est que dès qu'on parle du sujet de l'égalité femmes-hommes en général ou des violences faites aux femmes en particulier, on va se retrouver face à cette question permanente de renvoyer la responsabilité sur les premières victimes qui sont les femmes.
Mais au-delà de la responsabilité, avouez qu'il peut y avoir quand même un souci avec la pornographie et l'image de la femme, surtout quand on sait que les gamins ont un smartphone avec des images porno à portée de bras toute la
Bien
journée.
Sûr, toutes les images qui diffusent une idée selon laquelle la femme devrait être soumise et devrait répondre à des normes en termes de sexualité, moi, me pose problème.
Eric Fassin.
En même temps, je crois que nous serons d'accord pour dire qu'il n'y a pas que dans la pornographie que la domination masculine figure en bonne place. Et donc, pourquoi donner ce statut particulier à la pornographie? En tout cas, pour ma part, je pense que ce qui est très important, comme le disait Caroline de Haas, c'est que ce n'est pas tellement le rôle des hommes de dire aux femmes comment elles devraient être féministes. Donc, en tout cas, c'est une règle que j'essaie de me fixer pour moi-même.
Mais si on parle des images, peut-être au-delà de la pornographie, il y a la publicité aussi. Peut-être que ça aussi, c'est une réflexion à avoir.
Tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas isoler la question de la pornographie. C'est la question des représentations en général. Mais par ailleurs, il ne faut pas non plus identifier les représentations aux pratiques. Après tout, je crois que les gens peuvent jouer aussi avec les images et en faire des choses différentes et que le sens n'est pas entièrement inscrit dans les images, il est aussi inscrit dans ce que les gens en font. Donc je crois qu'on doit être un peu plus prudent peut-être dans cette disqualification générale des représentations, même si on doit apporter un regard critique systématique sur les représentations.
Notamment quand on vend des voitures et qu'il faut voir les jambes des femmes pour vendre les voitures. Michel Perrault.
Oui, c'est un énorme système, la publicité. Et on comprend bien comment des femmes peuvent entrer dans la publicité, de même qu'elles peuvent désirer être mannequins. Hein. Bien sûr, notre auditeur pose quand même une question. Hein. C'est l'adhésion des femmes à ces systèmes. On entre dedans, hein, et il faut se demander pourquoi. Effectivement, ces images sont attractives, elles peuvent rapporter de l'argent, quelquefois on est pris dans un réseau, et ben tout ça, ça demande à être en effet réfléchi. Ça pose une question.
On repart au standard de France Inter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Franck est en Haute-Savoie et il a pris son téléphone pour appeler France Inter. Bonne idée Franck, bonsoir à vous.
Bonsoir. Vous m'entendez ?
On vous entend très bien, on vous reçoit 5 sur 5. Bon. Vous êtes chef d'entreprise, c'est bien ça ?
Tout à fait, dans l'hôtellerie et la restauration. Je vous appelle, bon, quand j'ai entendu le sujet, j'étais interpellé quand même depuis quelques mois. Parce que nous, la saison dernière, avec ma femme qui est elle la patronne, on va dire, on a eu un problème dans l'entreprise où on a eu un chef de cuisine qui a harcelé une gamine, une fille qui travaillait avec nous comme pâtissière. Et il a fallu que l'on se dépatouille, on va dire, du problème qui était vérifié, contrôlé. Et on avait des témoignages de personnes. On a été jusqu'à la gendarmerie pour, on appelle plus ça un dépôt de plainte, mais enfin on a été à la gendarmerie pour signaler les faits. Et les gendarmes nous ont gentiment dit, mais tant que cette fille, malheureusement, n'est pas violée ou tuée, ou qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse?
Ah bon ?
Alors on s'est retrouvé nous dans la situation où on avait à l'intérieur de l'entreprise quelqu'un qui était harcelé, quelqu'un qui harcelait, où il fallait bien, je vais dire, se séparer de quelqu'un parce qu'on pouvait pas garder ce chef de cuisine. Et c'est là où, c'est pour ça que j'interviens un peu dans le débat, en disant que c'est bien beau de parler de tous ces problèmes-là, mais quand on est confronté en tant que témoin à ce genre de problème, on est complètement démuni, on ne sait pas quoi faire. Alors on a la seule solution qu'on a pu faire, c'était de protéger la jeune fille pendant les 3 semaines de mise à pied de la personne que l'on était en train de licencier pour harcèlement. On n'a même pas le droit d'utiliser le mot de harcèlement sexuel, puisque c'est au procureur de la République, quand on fait ce genre de dépôt de plainte, qui lui va requalifier le dépôt de plainte en harcèlement tout court ou harcèlement sexuel. Donc nous, en tant que chefs d'entreprise qui vivons ce genre de choses dans nos entreprises, on est assez démunis, même si on doit protéger nos employés.
Merci.
Et, oui, l'intervention Franck. Est assez intéressante, parce que ça fait quelques mois que je me pose la question, mais comment faire changer la société ?
Vaste question. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé Caroline de Haas.
Alors, première chose pour dire à Franck, s'il nous entend encore, de prendre un stylo et de noter un numéro de téléphone. Et j'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices à noter ce numéro de téléphone. C'est le numéro du collectif féministe contre le viol, qui est Viol Femmes Information, qui peut accompagner n'importe quelle personne, victime, témoin, ou étant confrontée à une situation de violence et devant intervenir. Ce numéro de téléphone, c'est le 0800 05 95 95 0800 05 95 95. Peut-être qu'on pourra le mettre sur le site de France
Absolument.
Inter. C'est un appel gratuit et anonyme du lundi au vendredi de 10h à 19h. Et les personnes qui vous écoutent au bout du fil sont des personnes qualifiées, compétentes, bienveillantes, qui vont vous accueillir avec énormément de force. Moi, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est ces personnes-là qui, moi, m'ont remise sur pied quand j'en ai eu besoin, quand j'ai été victime de violence. Et puis l'autre chose que souligne Franck, qui moi me met dans un état de colère mais incroyable.
C'est la parole des gendarmes.
C'est-à-dire que la parole des gendarmes là est gravissime. C'est gravissime qu'en 2017, alors qu'on connaît la problématique des violences, qu'on sait exactement comment former les professionnels, on ne l'ait pas encore fait partout. Et vous parliez au début de l'émission de la pétition qu'on a lancée, qu'on peut signer sur une femme sur deux, une et deux en chiffres, unefemmesurdeux.fr. C'est une pétition qui demande justement au président de la République cinq choses, et les deux premières, je les cite. La première, c'est de doubler les moyens des associations, parce que le collectif féministe contre le viol, ils sont débordés et ils n'ont pas eu d'augmentation de leurs moyens. Et la deuxième chose, c'est de former en 2018 de manière obligatoire et systématique tous les professionnels. Et je termine par un élément un peu plus positif, parce que quand même, moi j'ai de l'espoir. Moi, je suis formatrice professionnelle sur les violences. Je forme des professionnels à accueillir la parole des femmes, à détecter les violences dans le cadre des consultations, par exemple médicales, et à accompagner les femmes. En deux jours de formation, on transforme un professionnel qui ne voyait pas les violences en un professionnel qui les voit et qui est capable d'agir. En deux jours, c'est rien, deux jours de formation. Si en 2018, on forme tous les professionnels, moi je pense qu'en 2019, on divise, je ne sais pas, je ne vais pas faire de chiffres, de stats, mais je pense qu'on divise par deux le nombre de femmes victimes de violences dans notre pays.
Voilà, et on reparlera de ce sujet sur France Inter, puisqu'on fera une émission spécifique sur ces violences, et puis on attendra aussi ce que Emmanuel Macron va pouvoir dire le 25 novembre, puisqu'il s'exprimera sur le sujet. On reprend un nouvel appel au téléphone, au standard du téléphone sonne, Sarah, qui nous appelle de Logne. Bonsoir Sarah, bienvenue à vous.
Merci à vous, bonsoir. Oui, voilà, moi je voulais vous parler du fait qu'on se pose la question de la reproduction de la domination masculine et le fait que ça se répète encore et encore. Et moi je voulais pointer du doigt la famille, c'est-à-dire que la famille elle a un rôle important à jouer. Quand des parents qui sont quand même jeunes, qui ont eu leur enfant jeune, reproduisent ce qu'eux-mêmes ont vécu, c'est-à-dire la fille qui doit aller à l'école, aider la mère, faire le ménage, voilà, tout le temps être présente et que le garçon, lui, ne doit penser qu'à lui, que jouer aux vidéos quand il veut, sort quand il veut, à une liberté que la jeune fille n'a pas. Cette reproduction-là, ça explique pourquoi est-ce que la domination masculine se reproduit. C'est-à-dire que la famille, elle a un rôle à jouer. Parce que le jeune homme qui a maintenant 25 ans, quand lui-même va fonder sa famille, et ben, il va répéter ça. Il va répéter que la fille, sa fille, elle ira à l'école, après le ménage, après la vaisselle, elle aidera sa mère, et que son fils, lui, il sera privilégié, il pourra mener sa vie comme il veut, et puis ça se répète, quoi. Et moi, une des solutions qui pourrait permettre d'empêcher quand la famille est défaillante cette reproduction, c'est l'école. Qu'on veut ou non, on revient encore à l'école. Qui peut éduquer les petits garçons et les petites filles en expliquant que peut-être que le schéma à la maison n'est pas très normal, c'est l'école. Donc c'est pour moi une des raisons qui fait qu'en 2017, on parle encore de domination masculine et que ça se reproduit, c'est que les parents reproduisent la même chose. Et peut-être que même les mères, quand moi, par exemple, j'essaie d'éduquer ma mère en m'expliquant que c'est pas normal que mes sœurs et moi devons encore les faire le ménage pendant que mon frère joue aux jeux vidéo, pourtant ma mère est jeune, hein, elle m'a eu jeune. Sa réponse, c'est comme ça.
C'est pas facile, Sarah, pas facile, on est d'accord. Merci mille fois de nous avoir appelés. Je précise que vous n'êtes pas la seule à nous faire ce genre de remarques. Il y a Christian aussi sur Internet qui nous dit si les parents remettaient en question l'éducation de leurs garçons et de leurs filles, l'école n'est pas toujours responsable. Éric Fassin.
Il y a effectivement une inertie à laquelle la famille n'échappe pas, mais elle n'est pas le seul lieu, bien sûr, de reproduction des normes et de la domination masculine, en l'occurrence. On peut se poser la question à l'inverse, comment ça bouge ? Puisque, après tout, on ne peut pas réduire le féminisme à la dénonciation éternelle de la domination masculine. C'est aussi un projet pour changer les choses. Et je crois que ce qui se passe en ce moment est important, parce que les controverses publiques, ça veut dire que d'un seul coup, on se demande, est-ce que c'est normal ? Et je crois que s'interroger sur la norme, se demander si c'est normal ou si c'est simplement des habitudes, des mauvaises habitudes, et constater qu'elles peuvent changer, que après tout, dans les médias, on peut parler d'un sujet comme celui que nous abordons ce soir, ça peut faire bouger un petit peu les choses. Parce que, d'un seul coup, c'est un peu moins normal. Et je crois que, bien entendu, nous avons toutes et tous en particulier tendance à reproduire. Mais ce qui est en train de bouger, c'est le fait qu'on en parle. Et que, au moment où on fait quelque chose, il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un en face de moi qui me fasse remarquer que mon attitude pose problème. Je crois que c'est ça qu'on peut espérer, c'est que les choses vont un peu moins de soi, qu'elles sont un peu moins évidentes, que les normes sont un peu moins normales.
Voilà, et ben justement, il y a Boris qui, je crois, se pose aussi des questions. En tout cas, il nous appelle du Vaucluse. Bonsoir, Boris.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes interpellé par tout ce que vous venez d'entendre ?
Tout à fait. Alors, il y a plein de sujets, c'est très 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 riche. Je voudrais juste partager mon expérience personnelle. Aujourd'hui, tout va très bien. Je suis avec ma femme qui elle-même a été victime d'abus sexuels à moins de 15 ans. Donc je connais le sujet. Ça a beaucoup perturbé nos relations sexuelles pendant des années. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, on a 3 enfants, tout se passe très bien. Mais j'adhère tout à fait à ce discours qui se libère depuis un mois. Je suis tout à fait d'accord. J'abonde et il faut que les femmes disent. Il faut qu'elles dénoncent, il faut que cela cesse. La seule chose qui me chiffonne dans ce discours, c'est que on entend depuis quelque temps un discours féministe très puissant, et j'y adhère, mais j'aimerais que les féministes à ce moment-là, exprime aussi qu'est-ce qu'elles attendent de l'homme. Parce que dans mon expérience professionnelle, j'ai été 2 fois trompée et je me suis remis toujours en question, c'est de ma faute, je suis impuissant ou je ne donne pas le plaisir qu'il faut. J'ai l'impression qu'il y a certains hommes, pas tous, mais qui sont perdus. Et dans cette histoire de sexisme, de lutte, en fait, j'ai l'impression que c'est une bagarre et je ne sais pas comment exprimer, il faut pas que ce soit une bagarre. Il faut que... Je sais pas comment exprimer, je suis enseignant moi-même, en plus, pour être redondant avec ce qui vient de dire avant, c'est que je fais très attention dans mon discours auprès de mes élèves que tout soit traité de façon égale. Mais on entend tellement parler en ce moment de féminisme que les hommes qui vont arriver, quelle place ils ont?
Eh ben, je crois qu'on a très bien compris, Boris. Vous êtes très bien exprimé sur cette question. Michel Perrault, en tout cas, a très envie de vous répondre.
Je pense que notre auditeur, que je salue aussi, exprime quelque chose que beaucoup d'hommes ressentent. Et il faut comprendre que nous vivons, au fond, une espèce de révolution anthropologique. Hein. C'est-à-dire que ce vieux socle auquel on ne touchait pas est en train de bouger. Et par conséquent, c'est pas du tout étonnant que les hommes soient désarçonnés. Hein. C'est vrai qu'ils étaient habitués à avoir une domination tranquille, finalement, qu'on ne contestait pas. Donc, je pense que c'est très normal et qu'effectivement, les féministes que nous sommes doivent considérer l'autre. Considérer l'autre, et c'est d'ailleurs pour ça que le genre, les théories du genre existent, c'est que les femmes sont pas toutes seules. Hein. C'est une question de rapport entre les sexes, et la question posée est réelle, elle est tout à fait réelle.
Alors moi j'ai envie de compléter cette question pour vous, Éric Fassin, parce que on voit depuis le début, depuis 2 mois, des gens qui s'inquiètent, qui disent, avec ce qui se passe, la drague à la française n'aura plus sa place, on va vers une dérive à l'américaine. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui s'inquiètent ?
La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on trouve désirable. Est-ce qu'on trouve désirable l'inégalité ou est-ce qu'on trouve désirable l'égalité ? Je pense que c'est une transformation du désir qui est en train de se jouer. L'idée qu'on puisse désirer la domination, c'est bien ce qui fait que ça se perpétue. Donc je crois qu'il est important de se dire que bien sûr, ce qui se passe en ce moment est troublant. L'égalité, c'est troublant. Mais il faut se rappeler que l'inégalité, c'est assez troublant. Et c'est troublant et pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire, nous vivons dans des sociétés qui se veulent démocratiques, c'est-à-dire qui revendiquent l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans une société démocratique où on dit « oui, mais quand même pas les femmes ». Je crois qu'il y a un prix à payer, d'abord pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour tout le monde. L'inégalité, ça n'est pas si normal que ça.
Michel Perrault, vous vouliez rajouter un petit mot ?
Juste dire qu'il ne faut pas confondre les choses. Le harcèlement sexuel, ce ne sont pas les jeux de l'amour et du hasard. Les jeux de l'amour et du hasard, c'est magnifique. La séduction, pourquoi pas, hein, à condition que le oui et le non des femmes soient respectés. Ce n'est pas la même chose que le harcèlement sexuel. Et c'est vrai que les frontières peuvent être difficiles par moments. Tout ça, c'est complexe. Nous sommes dans un monde complexe et dans des choses complexes. Mais mais il faut les prendre à bras le corps.
Caroline Delas, et puis ensuite on repart au standard.
Ouais, Manon nous attend. Deux remarques d'abord par rapport, Boris à un moment a dit il faut que les femmes parlent. Je voudrais juste rappeler que l'immense majorité des femmes victimes de violences ont parlé très vite, soit dans leur famille, soit à leur médecin, soit à leur gynéco, elles ont parlé. Le problème, c'est pas que les femmes parlent pas. Le problème, c'est qu'on les entend pas. Et donc, c'est ça le challenge pour les années qui viennent. C'est pas de, moi, on a beaucoup entendu libérer la parole. La parole, c'est libérer. Mais la parole, elle a toujours été là. Le problème, c'est nos oreilles qui étaient fermées. Donc, moi, je dis, c'est la libération des oreilles, ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on se met à entendre des choses qu'on n'entendait pas auparavant.
Moi, je mets un petit bémol, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Michel Perrault. C'est pas dans tous les milieux que les femmes prennent la parole, hein.
Eh ben, globalement, les femmes victimes de violences, en tout cas les enquêtes montrent ça, elles ont, je crois que c'est 70% des cas, en entreprise par exemple, les femmes victimes de harcèlement sexuel, dans 70% des cas, elles en ont parlé à quelqu'un. Dans 70%. Et le problème, c'est que dans ces 70% des cas, les gens en face n'ont pas entendu, n'ont pas pris la mesure. Et puis par rapport à cette histoire de drague, moi il y a quand même un truc qui m'étonne, et j'aimerais bien que des neurobiologistes nous éclairent sur la question. C'est que les femmes, bizarrement, c'est assez étrange, elles sont très bien capables de faire la différence entre quelqu'un, un mec ou une meuf, qui les drague, et quelqu'un, un mec ou une meuf, qui les harcèle et qui va être violent. Elles sont très bien capables de faire la différence. Donc je m'interroge, y a-t-il dans le cerveau des femmes une capacité particulière qui leur permettrait de détecter ça que les hommes n'auraient pas ? Et à ce moment-là, il faut faire des opérations du cerveau massives pour donner cette compétence aux hommes. Ou alors, autre hypothèse, en fait, les hommes savent très bien faire la différence et quand ils nous expliquent qu'ils ne savent pas la faire, c'est qu'en fait, ils sont des harceleurs.
On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Manon qui est en ligne de Rennes. Bonsoir, Manon.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Alors du coup, en fait, moi, je vous appelle parce que je voudrais réagir par rapport à ce qui vient de se dire. Là, je sais pas trop, j'ai pas compris le nom de la personne qui a juste intervenu, mais je suis complètement d'accord avec elle. En fait, le problème que vous évoquez, le fait que les femmes parlent et qu'on les entende pas, c'est tout à fait ce que je voulais pointer avec mon appel, par rapport au fait, en fait, qu'on a tendance à minimiser complètement l'impact des voix qui se sont élevées, notamment contre tous ces stars d'Hollywood, quand on parle de l'agression de Amber Heard par rapport à Johnny Depp il y a quelques années de ça, et qu'on voit que tout le monde disait « Ah non, mais Johnny Depp, c'est pas possible, il a pas pu faire ça, moi je l'aime bien, c'est un bon acteur, alors du coup c'est pas vrai, c'est pas possible. » Moi je suis complètement persuadée que les femmes, elles parlent, elles s'expriment et tout ça, et ce qu'on a besoin, enfin moi aujourd'hui, ce que j'ai besoin de dire à toutes ces femmes qui se sont exprimées, c'est que pas de souci ma sœur, moi je t'ai entendue et moi je te crois. Parce que c'est ça que je pense qui manque vraiment aujourd'hui dans l'espace public.
Merci Manon pour ce témoignage. Qui souhaite réagir, Eric Fassin ?
Ce qui se passe en ce moment, on me rappelle ce qui s'est passé dans les années 70 avec l'idée qu'il fallait qu'il y ait du consciousness raising, c'est-à-dire que les femmes prennent conscience de ce qui se passait et comment, en parlant entre elles. Et aujourd'hui, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que des femmes se disent « ce que j'entends là, c'est ce qui m'est arrivé ». Et donc, ce qui m'est arrivé avait du sens, ça n'était pas cette chose informe, un peu bizarre, à laquelle j'avais du mal à donner un nom. C'était une expérience qui est reconnaissable parce qu'elle est partagée par d'autres femmes. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ce ne sont pas seulement les femmes entre elles aujourd'hui qui peuvent en parler, c'est que les hommes, bon gré mal gré, sont amenés à les entendre. Et donc, eux aussi, à réinterpréter des expériences, à se dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je crois que, de ce point de vue-là, ça a une vertu éducative pour tout le monde. Ça donne des noms pour nommer les choses, et pour les femmes, et pour les hommes.
Michel Perrault.
Oui, ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a des niveaux de parole. Il y a une parole qui est un murmure, qui est une parole au voisin. Et là, ce que l'on voit, c'est l'émergence d'une parole publique. Hein. Et effectivement, pour qu'il y ait parole publique, il faut qu'il y ait écoute et il faut qu'il y ait relais. C'est tout un ensemble de mécanismes. Et je crois, comme Caroline Dehaze vient de le dire, que l'écoute est aussi importante que la parole. Il faut que les deux marchent ensemble et qu'ensuite, ça aille vers une parole publique.
J'ajoute une question d'Annick, et j'ai envie de vous poser la question à tous les trois, et notamment à vous, Michel Perrault, puisque vous avez beaucoup insisté dans vos ouvrages sur l'importance des religions, du livre, sur la domination masculine, sur la domination des femmes. Là, c'est Annick qui nous dit, est-ce que la question est plus complexe pour les femmes musulmanes ?
Probablement, parce que dans la religion musulmane actuellement, je ne pense pas du tout éternellement, il y a une domination masculine, tranquille, affirmée, hein, et probablement, c'est une hypothèse, bien entendu, que beaucoup de femmes élevées dans cette perspective consentent, mais qu'est-ce que c'est que consentir, hein, à ce système? Probablement, c'est plus difficile. Mais il faut bien dire que, si on regarde l'histoire du catholicisme, par exemple, ça a été très difficile pour les femmes catholiques, chrétiennes, qui avaient véritablement absolument absorbé le dogme qu'on leur donnait. Donc, je crois que c'est toutes les religions ont des problèmes de ce point de vue-là.
Un petit mot, Caroline Delas, puis ensuite Eric Fassin, ouais. Parce que la pendule, là, je vois, tourne.
L'ensemble des religions, dans leur histoire et encore aujourd'hui, font de leur dogme sur cette fameuse, je mets des guillemets, complémentarité entre les femmes et les hommes. Et en fait, derrière cette complémentarité se cache une inégalité entre les femmes et les hommes. Quelle que soit la religion dont on parle, je ne parle pas là des croyances individuelles de chacun ou de chacune que je respecte, mais la religion en tant qu'organisation sociale a fonder son dogme sur cette inégalité. Et je rappelle juste à notre auditrice, enfin Annick, qui posait la question, qu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui vivent dans un continent qu'on appelle l'Amérique latine, dans lequel, à cause notamment de l'Église catholique, les femmes n'ont pas le droit d'avorter. Voilà. Donc moi, je serais bien à même de faire un podium entre l'islam, l'Église catholique ou le judaïsme en matière d'atteinte aux droits des femmes. Encore une fois, tout ça ne remet pas en cause la croyance individuelle de chacun que je respecte profondément.
Éric Fassin.
Je crois qu'effectivement les podiums sont toujours difficiles à faire en matière de domination masculine, mais si on prend la question très précise des violences envers les femmes, nous disposons d'une enquête qui s'appelle ENVEF, l'enquête sur les violences envers les femmes, qui établit que les violences envers les femmes, c'est pour toutes les femmes dans des proportions à peu près comparables. Donc je crois que nous aimerions croire que la violence, c'est chez les autres. Il se trouve que malheureusement, c'est aussi chez les nôtres.
Merci beaucoup Éric Fassin, grand merci Caroline Dehas et mille fois merci aussi à vous Michel Perrault. Merci d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle un de vos livres, hein, il y en a beaucoup, mais en tout cas celui-ci est un petit livre, il est passionnant à mettre entre toutes les mains, peut-être même à enseigner à l'école, Mon histoire des femmes, tout simplement. C'est la fin de ce téléphone sonne, merci à tous ceux qui nous ont appelés, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Irène Ménem, Jimmy Bourquin, la réalisation ce soir, Juliette Gou, à la programmation musicale, Thierry Dupin, à la technique, Ronan Mahé, Juliette Delperroux, Clément Vuillet. Merci aussi à nos jeunes standardistes.